Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, les associations passent à l'attaque. Marine Calmet, vous êtes juriste, vous avez déposé un recours en justice au nom de deux associations, Notre Affaire à Tous et le CRILAN, le Centre de Réflexion, d'Information et de Lutte Antinucléaire, qui est un acteur historique dans l'ouest de la France. C'est Notre Affaire à Tous, c'est une association beaucoup plus récente qui s'est constituée autour des questions de changement climatique. Et donc ces deux associations déposent un recours en justice. Vous allez nous expliquer dans quelles circonstances et ce qu'il concerne.
Alors, l'association Notre Affaire à Tous, c'est donc une association de plaidoyer environnemental qui s'est entourée d'autres acteurs comme Nature Rights et End Ecocide qui organise aussi la lutte juridique pour la reconnaissance des écocides. Dans le cadre de l'action qui a été menée récemment, c'est donc un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de cet arrêté qui valide en fait un assouplissement des règles en matière de sécurité nucléaire et notamment qui pourrait être applicable à l'EPR de Flamanville, ce qui nous semble déroger en fait à une conscience politique et morale en matière de sécurité nucléaire.
Alors le détail piquant, c'est que cet arrêté a été pris le 30 décembre 2015, c'est-à-dire à un moment où tout le monde a l'œil rivé sur ce qui se passe dans le journal officiel.
Voilà, exactement. On peut dire qu'il a été pris un peu en catimini pour éviter d'ailleurs toute contestation. D'ailleurs, quand on regarde, il y a effectivement une consultation publique qui avait été menée, qui avait eu un succès foudroyant puisque 5 déclarations avaient été déposées auprès de la consultation. On peut dire qu'effectivement, et d'ailleurs aucune déclaration quant à cet article 9 qui valide la possibilité de déroger aux normes de sécurité.
Qu'est-ce qu'il dit exactement, cet article, Marine Calmet ?
Alors cet article 9 de l'arrêté, il prévoit que dans le cas de difficultés particulières, qui ne sont évidemment pas définies, on peut demander à l'ASN une dérogation en matière d'autorisation.
Puisque l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire.
Exactement. L'autorité de sûreté nucléaire est normalement diligente pour conférer des autorisations et donc valider le respect par les fabricants des normes européennes, des normes essentielles en matière de sécurité. Et dans ce cas-là, donc, l'industriel pourrait, grâce au dépôt d'une demande, voir sa pièce qui ne répond pas aux exigences essentielles de sécurité être validée par l'ASN et donc pouvoir l'utiliser, par exemple, comme c'est le cas, ce serait potentiellement le cas à Flamanville avec les défauts de la cuve.
Cet arrêté, il n'arrive pas à n'importe quel moment, Marine Calmet. Le nucléaire est dans une passe difficile en ce moment et en particulier, l'ASN a fait une conférence de presse pour dire que il y avait quand même certaines difficultés d'ordre financier et également l'ASN regrettait le manque de moyens humains pour mener à bien ses missions de sûreté nucléaire.
Alors effectivement, cet arrêté, il intervient à un moment très étrange puisqu'on se trouve dans un double discours. Alors à la fois, on sort de la COP21, donc plein d'engagements, c'est très positif, on a trouvé un accord mondial. Et puis aussi la loi de transition énergétique, parce que pendant la loi de transition énergétique, effectivement, l'ASN avait réclamé 200 postes supplémentaires pour assurer les missions de contrôle. Elle s'en est vue attribuer 30. Donc effectivement, très peu ravie du résultat, elle déclare qu'elle est incapable en fait d'assurer des missions supplémentaires. Et en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est incapable de passer cette procédure de dérogation spéciale puisque son rôle premier, c'est d'assurer déjà que les centrales qui sont en fonctionnement fonctionnent correctement.
Mission supplémentaire qui existe vraiment, puisque de fait, on arrive à 40 ans d'existence des centrales nucléaires. Elles avaient été prévues pour durer 40 ans. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire a aujourd'hui davantage de travail pour vérifier s'il serait éventuellement possible de prolonger, ce qui est le vœu du gouvernement et d'EDF, de prolonger la durée de vie de ces centrales.
Oui, et d'ailleurs, c'est étrange parce que quand on regarde ce déroulement actuel, donc on a vraiment M. Lévy qui fait une déclaration demandant le prolongement des centrales, la durée de vie des centrales en France. Ségolène Royal qui dit « bon, bah très bien ». On va le faire, on va prolonger, alors que l'ASN dit on n'a plus d'argent pour le faire et que concrètement, il y a quand même un gros problème sur le financement du nucléaire en France. Le directeur financier d'EDF vient de rendre les armes, de déposer le bilan lui-même en disant mais voilà, on essaie de vendre l'EPR aux Britanniques, ça ne marchera pas, financièrement on ne peut pas suivre. Et on se rend compte en fait... La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on a l'argent pour démanteler les centrales en France? Est-ce que c'est pas pour ça, finalement, qu'on veut rallonger la durée de vie? Parce qu'on est incapable de fermer nos centrales?
D'où ce petit tour de passe-passe que nous évoquions et qui est le motif de notre rencontre aujourd'hui, Marine Calmet. Donc, un arrêté pris en toute discrétion le 30 décembre 2015 qui autoriserait donc à laisser les centrales en fonctionnement quand bien même il y aurait des failles avéré.
Voilà, alors ça, il faut voir le moment où ça va intervenir parce que c'est au moment de la production. C'est-à-dire que, par exemple, si effectivement il y avait un remplacement sur une centrale, on dit on prolonge de 10 ans, mais il va falloir remplacer quand même certaines pièces sur certaines centrales. Donc là, effectivement, si un producteur met sur le marché une nouvelle pièce et que celle-ci est défectueuse, elle pourrait être ajoutée à une centrale qui est déjà prolongée. Ça pourrait être le résultat de cet arrêté, en fait. Et pour les nouvelles technologies comme l'EPR, ça pourrait valider la mise en service de la centrale de Flamanville, alors qu'aujourd'hui, on sait que potentiellement, il y a des défauts sur la cuve et sur le couvercle. Et d'ailleurs, la réaction de nos voisins européens sur cette question-là est symptomatique, puisque je suis moi-même allemande, donc j'ai lu les rapports outre-Rhin, et les Allemands se demandent mais qu'est-ce qui tourne pas rond en France ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment est-ce possible que politiquement on en arrive à ce système ? Parce qu'il faut voir le nucléaire aujourd'hui comme un droit satellite.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, on crée des règles qui nous sont, comme dans ce cas-là, imposées par l'Union européenne. Donc, on transpose en droit national et puis ensuite, on crée des dérogations. Alors qu'on n'a absolument pas le droit de le faire. Et quand l'Union européenne fait un seuil d'harmonisation en matière de normes qu'elle impose à tous les États pour une sécurité minimum en Europe, de façon consécutive au désastre qui s'est produit à Fukushima. Parce qu'il faut voir que ce stress test qui a été imposé à toutes les centrales européennes, beaucoup de centrales françaises ne les ont pas passées. Et les Allemands nous le reprochent énormément en disant que si ces centrales étaient sur le territoire allemand, elles seraient fermées.
Donc là, vous êtes en train de nous dire que nous dérogeons au droit communautaire.
Exactement. Et c'est ce que nous avons soulevé dans notre recours, c'est que ces normes minimum, ces normes seuil qui nous sont imposées par l'Union européenne, elles sont obligatoires. Et c'est des normes logiques, dans le sens où aujourd'hui, on doit pouvoir mettre en pratique, au moins, et la France, en tant que pionnière du nucléaire, doit donner l'exemple, à mon sens, c'est-à-dire des normes minimales respectées par tous les États membres pour garantir un seuil de sécurité globale dans l'Union européenne. Et quand la France... concrètement, achève de dire on n'est pas capable de les respecter puisqu'elle prend un arrêté un 30 décembre pour dire finalement on valide nos défauts dans nos constructions, nos centrales, il y a de quoi s'inquiéter, oui.
Mais alors Marine Calmet, est-ce que vous comptez déposer ce recours auprès d'une juridiction européenne ou bien est-ce que vous pouvez le faire auprès d'une juridiction française? Et est-ce que cet arrêté contrevient également à des lois françaises ou bien est-ce qu'au contraire, ici, à supposer qu'on oublie un petit instant que nous sommes en Europe, on pourrait prendre cet arrêté et l'appliquer?
Alors, effectivement, nous déposons notre recours devant le Conseil d'État. Il faudrait achever les voies juridiques dont nous disposons pour aller devant l'Union européenne, mais c'est pas exclu puisque, à notre sens, on a un vrai manquement aux dispositions européennes. C'est vraiment la base de notre recours puisque il y a aussi une atteinte au principe de précaution et au principe de prévention. Donc on a plusieurs principes qui sont reconnus par la Charte de l'environnement. Donc, comme vous disiez, on est à la fois dans le droit international, communautaire et national puisque la Charte de l'environnement reconnaît ces principes qui sont applicables à tous les domaines, en fait, de la politique, qu'ils soient environnementaux, mais aussi plus particulièrement nucléaire. C'est-à-dire que quand on met en service des centrales qui ont des manquements en matière de sécurité, c'est une atteinte aux principes de précaution et aux principes de prévention, qui sont des normes françaises aussi.
C'est intéressant que dans ce cas précis, deux associations se soient regroupées pour faire cette démarche en justice. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots peut-être pourquoi elles se sont mises d'accord pour faire ça ensemble?
Alors, ce qui s'est réellement passé, c'est que notre Affaire à tous, c'est une association composée de jeunes juristes, de communicants, de gens passionnés. Et en fait, on avait signalé cet arrêté. Pas beaucoup de réactions. On avait contacté pas mal d'associations.
Dans le milieu associatif.
Oui. Et dans le milieu associatif, on n'avait pas eu des très bons retours parce que trop habitués peut-être justement à ce phénomène qui paraît totalement normal maintenant de déroger aux normes de sécurité en matière nucléaire. Les associations nous avaient dit non mais ça va jamais passer en fait votre recours. C'est très vague effectivement, cet arrêté est vague mais pas contestable. Et donc du coup, on s'est dit bah là, y a un problème parce que ça veut dire qu'il y a un manque de motivation et il va falloir quand même agir. Symboliquement, on peut pas laisser passer ça. Et donc, on a contacté le CRILAN, qui est donc l'association historique, qui est déjà sur cette lutte-là depuis des années. Ils sont à 5 km de la centrale de Flamanville. Enfin, en fait, oui, en première ligne sur ce sujet-là. Et la réponse a été immédiate, le soutien entier, une confiance totale. Ils ont voté un pouvoir à leur président qui est venu avec nous, qui nous soutient sur cette action. Mais c'est les juristes de notre Affaire à tous qui ont porté ça à la base. Et on a eu ce soutien qui est fondamental, en fait, parce que l'association du CRILAN est agréée pour agir dans ce domaine-là. Et nous, évidemment, c'est très difficile en tant qu'association. On a 6 mois d'existence, mais extrêmement motivés. Donc, on mobilise en fait nos forces juridiques et on demande à fédérer aussi les associations historiques de ces luttes-là pour justement bah, peut-être aussi donner un peu d'air frais dans la lutte environnementale actuelle.
Vous pourriez effectivement proposer vos compétences à nombre d'associations en France.
Et c'est ce qui est prévu.
Mais pour cette action-ci, quelles sont les étapes ?
Dans un premier temps, donc, nous déposons notre recours au Conseil d'État en recours en excès de pouvoir, c'est-à-dire en demande à l'annulation de l'arrêté ou au moins subsidiairement de cet article 9 qui valide les défauts. On attend donc la réponse du gouvernement parce que dans le cadre d'un recours, de cette forme de recours, le gouvernement doit répondre et déposer un mémoire en défense. Et après, bah, le jugement sera rendu dans 1 an. Avec un peu de chance, on attend. Et c'est ce qui est difficile, c'est effectivement de se dire, ça se trouve, cet arrêté sera mis en œuvre avant une décision du Conseil d'État. Alors, ce qu'il faut évidemment pas oublier, c'est que maintenant, il va falloir mobiliser d'autres énergies puisque nous avons été contactés par d'autres associations et on aimerait évidemment aller aussi dans un sens plus communautaire, c'est-à-dire aller vers les Allemands, leur demander de venir nous soutenir également en France parce que je trouve que le signe donné actuellement, c'est que les pays voisins vont devoir se charger de remettre un peu d'ordre dans notre politique intérieure. Et ça, diplomatiquement, c'est très grave. Quand le canton de Genève part et doit agir contre la France en plainte contre X pour mise en danger et pollution des eaux, juridiquement, diplomatiquement, politiquement, c'est un désastre. Parce qu'on se rend compte que les outils donc, qui sont les outils normaux des associations, c'est-à-dire du plaidoyer, du lobbying associatif, ben, ne marchent plus. Parce que quand on en vient à l'outil juridique, c'est qu'il y a un blocage, qu'on doit rappeler à l'État ses propres engagements. Ce n'est pas un bon signe. Et quand on voit les discussions qu'il y a autour du dialogue environnemental, ça montre qu'il y a un blocage quand même.
Effectivement, il y a quelques mois, on recevait à Terre à Terre Valérie Cabanès qui nous parlait de son projet de proposer un tribunal international des droits de la nature à La Haye. On sait qu'il y a un procès qui se prépare contre Monsanto dans quelques mois également. Et puis, il y a maintenant tout ce que vous nous dites, Marine Calmé, sur ces possibilités d'ouvrir le champ du juridique et d'y traiter toutes ces questions environnementales. Est-ce que vous auriez le sentiment qu'on a peut-être sous-employé l'arme juridique ou bien est-ce que vous avez l'impression, comme vous le disiez, qu'on arrive aujourd'hui à une situation de blocage qui rend légitime de débloquer cette arme-là ?
Alors, effectivement, là, comme on le voit sur le dépôt de cet amendement gouvernemental qui fait ruer dans les brancards les associations de juristes, qui veut démonter, déboulonner le principe pollueur-payeur et qui reconnaît un préjudice écologique mais en demi-teinte. En fait, ce qu'aimerait faire reconnaître l'association Notre Affaire à tous, c'est aussi le fait que les outils juridiques ne sont pas actuellement à la hauteur du débat et du combat pour les droits de la nature. Effectivement, nous sommes très proches de Valérie Cabanès, avec qui nous travaillons énormément, et nous allons dans le même sens. La synergie, aujourd'hui, de la justice environnementale est heureusement soudée et va dans le même sens parce que, typiquement, les outils à notre disposition ne sont pas suffisants. Et parfois, les combats que nous menons, on les sait perdus d'avance. Parce que le juge ne peut pas s'opposer, et souvent en plus dans le nucléaire, a très peur de s'opposer à une politique qui est en fait vraiment coincée par le gouvernement. Et le juriste, là, ne s'aventure que rarement dans ces domaines-là. Et donc, ce qu'on voudrait aussi montrer par ce genre d'action, c'est dire qu'il nous faut de nouveaux outils. Il nous faut de nouvelles règles, des règles plus justes et plus larges. Quand le gouvernement, comme là, dans la reconnaissance du préjudice écologique, n'ouvre pas ou ouvre très peu le recours aux associations de protection de l'environnement, parce qu'il ne l'ouvre qu'aux associations qui sont agréées depuis plus de 5 ans, qui sont reconnues administrativement. Et bien ça veut dire que, par exemple, pour nous, et c'est ce avec, contre quoi nous luttons tous les jours, une petite association de juristes ultra motivés, jeunes et dynamiques, elle doit toujours s'associer à des associations plus vieilles qui ont été légitimées par autorisation administrative. Et ça, eh bien, juridiquement, c'est très dur parce que nous, on doit aussi lutter contre le fait qu'on soit encore inconnu, qu'on n'ait pas encore fait nos preuves. On arrive dans un système qui est déjà très clos aussi. Il n'y a pas beaucoup d'associations de protection de l'environnement reconnues. Hein. Et en fait, voilà, donc c'est ça, démontrer par l'action, toujours en restant en mouvement dans cette sphère juridique et environnementale, qu'on a besoin de nouveaux outils.
François Veyrette, à Génération Future, donc vous êtes le fondateur et le porte-parole, vous êtes plutôt dans la rubrique feuilleton. C'est l'affaire glyphosate qui vous occupe et nous occupe ce matin encore. Ça n'est pas la première fois, ça n'est sans doute pas la dernière non plus, malheureusement.
Oui, c'est un feuilleton à rallonge, puisque l'affaire n'est pas terminée. Comme tous les pesticides, le glyphosate, matière active du plus connu des désherbants, Monsanto, le Roundup, et d'autres d'ailleurs, il y a d'autres marques qui en contiennent, bien d'autres. Vous voyez donc son autorisation arriver à son terme, et donc l'Europe doit, avant le mois de juin 2016, délivrer ou pas une nouvelle autorisation pour une nouvelle période de 15 ans. Et donc c'est un vrai enjeu, une vraie bataille, avec un premier épisode de cette bataille qui est très intéressant, puisque dans le comité ad hoc, qui était chargé donc de prendre une décision qui regroupe des experts envoyés par les États membres, il n'y a pas eu de majorité qualifiée pour voter pour la proposition de la Commission qui proposait donc de réhomologuer pour 15 années encore le glyphosate. Parce que cette fois-ci, un certain nombre d'élus, de politiques, ont pris des positions. Souvent, vous savez, dans ces comités d'experts, bon, c'est un peu les bureaucrates qui font un peu ce qu'ils veulent, ça se passe derrière des portes closes. Si le sujet n'est pas sur le devant de la scène, les politiques s'en mêlent pas forcément. Là, il y a une forte pression des ONG, dans un contexte scientifique important, puisque l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport il y a quelques mois, classant le glyphosate comme dans la catégorie des cancérigènes probables, ce qui est une catégorie très élevée, c'est-à-dire qu'on a une certitude absolue sur l'animal, et puis des preuves encore insuffisantes au niveau de l'épidémiologie, mais des preuves quand même sur l'homme. Et donc ça suffit mécaniquement, si le glyphosate était reconnu par l'Union européenne également comme probablement cancérigène, pour le retirer du marché, parce que le nouveau règlement sur les pesticides prévoit qu'un cancérigène avéré ou probable doit être automatiquement retiré. Donc il y a un enjeu considérable en termes de santé publique, d'environnement, mais également pour les fabricants en termes économiques. C'est pour ça que la bataille fait rage.
Mais puisque l'OMS a déjà statué, l'affaire est faite.
Alors normalement, scientifiquement, l'affaire est entendue. C'est-à-dire, l'OMS a fait travailler un groupe de 17 experts de très haut niveau. Pendant un an, ils ont revu 1000 études à peu près, 1000 études scientifiques publiées dans les revues et comités de lecture. L'OMS travaille toujours sur les études publiques, c'est-à-dire celles qui sont critiquables par toute autre équipe scientifique. Et ils ont donné donc un rapport sans le moindre doute, classant le glyphosate comme un cancérigène probable pour l'homme. Le problème, c'est que cette vérité scientifique n'est pas la vérité réglementaire, puisque l'EFSA, l'Agence européenne, a demandé à
l'Agence européenne de sécurité alimentaire.
Tout à fait, l'équivalent de notre ANSES, mais donc au niveau européen, a demandé à l'Agence de sécurité sanitaire allemande de faire un rapport sur le glyphosate, et ce rapport arrive à des conclusions diamétralement opposées à celles de l'OMS, puisqu'il conclut que non, finalement il n'y a pas de danger par rapport au cancer pour le glyphosate, ce qui paraît complètement absurde pour le commun des mortels, puisque c'est normalement les mêmes études qui ont été examinées, enfin normalement, puisque l'EFSA en plus examine des études fournies par l'industrie qui ne sont pas publiées dans les revues et comités de lecture, qui ne sont pas rendues publiques, ce qui change quand même la donne au niveau de l'évaluation, parce que selon qui commande les études, effectivement, on sait bien que les conclusions peuvent être faussées, tordues.
Donc ce ne sont pas exactement les mêmes études.
Non, ce ne sont pas exactement les mêmes études qui ont été évaluées, mais surtout, je dirais, elles n'ont pas été évaluées de la même manière. Alors, c'est là où il y a des biais méthodologiques considérables, puisque avec les études que l'OMS a examinées, les études principales, celles qu'il a retenues comme étant des éléments de preuve à charge sur le glyphosate, il n'y a aucun doute. Le glyphosate est vraiment un cancérigène probable pour l'homme, parce qu'il suffit d'avoir deux études qui montrent des cancers sur l'animal, sur deux sites différents, et ça suffit avec l'épidémiologie qu'il y a sur le lymphome non-Hodgkinien et le glyphosate pour l'homme, ça suffit. Et en fait, il y a cinq études disponibles qui montrent des effets pour trois types de cancers sur l'animal, dont le cancer du rein, dont lymphome, et un troisième. Et ça, donc on a largement la matière pour classer, même au niveau de l'Union européenne, ce produit comme un cancérigène probable, mais la lecture des études a été complètement tordue, déformé, interprété par l'Agence sanitaire européenne, et ça a été critiqué, non seulement par nous les ONG, mais ça a été critiqué par un groupe de scientifiques, de 96 scientifiques, qui, outré par la méthode, a fait une publication en novembre dernier, avec des gens aussi célèbres que Andreas Kortenkamp et bien d'autres, des spécialistes de ces questions de toxicologie des produits chimiques, expliquant par le détail comment, justement, l'Agence de sécurité sanitaire européenne a utilisé, déformé les normes en vigueur pour l'interprétation des études. Et c'est ce que nous, d'ailleurs, ONG, on attaque maintenant en considérant que cette interprétation abusive des normes, qui sont des normes de l'OCDE hein, pour l'utilisation et l'interprétation des études scientifiques, elle est coupable de délivrer un résultat d'homologation, d'évaluation qui n'est pas conforme à la réalité scientifique.
Alors, vous avez embrayé directement, François Bayrette, sur le recours en justice que vous faites, et on va y revenir. Mais j'aimerais peut-être, avant que vous nous expliquiez davantage comment vous fondez votre action, j'aimerais rester un moment sur ce groupe d'experts que vous avez évoqué, qui doit statuer pour la Commission européenne sur la réautorisation ou non du glyphosate, et puis peut-être également sur l'EFSA, qui est également une agence publique, composé d'experts internationaux. Parce qu'on pourrait très bien vous opposer assez rapidement qu'on est là dans le cas typique d'une controverse scientifique qui est le quotidien pratiquement du monde scientifique.
Alors qu'il y ait des discussions, des controverses scientifiques, ça c'est le lot normal quotidien de la science, et c'est même positif, c'est comme ça que la connaissance progresse. Mais là, il y a de telles différences dans l'interprétation des études qui pourtant est normé donc par des règles définies au niveau international par l'OCDE, qu'on n'est plus dans la controverse scientifique, on est dans l'interprétation tendancieuse des données scientifiques. Et ça, c'est pas du tout la même chose. On peut prendre quelques exemples. L'Agence européenne a par exemple contesté les conclusions tirées à partir d'études dans lesquelles il y avait des doses qu'elle jugeait trop élevées employées sur les animaux. Or, ces doses voisines du milligramme par kilo, ce sont des doses qui sont encore dans la fourchette des doses acceptables pour ce genre de test. Effectivement, d'ailleurs l'OMS explique bien, pour pouvoir prouver qu'un produit est potentiel cancérogène, ça se met en évidence par exemple avec l'apparition de cancers qui sont rares et qu'on va voir statistiquement apparaître avec des doses assez fortes. Sinon, on n'a pas la puissance et le nombre nécessaire pour les voir apparaître. Donc ça s'explique et c'est dans les normes de l'OCDE. Il y a une autre question qu'on appelle les références historiques. On peut expliquer simplement en disant, ben voilà, quand on voit un excès de risque pour une population d'animaux exposés, donc en laboratoire, il faut savoir si cet excès de risque, il est dans la fourchette de la variabilité habituelle du labo. Et donc, la règle, c'est d'examiner les données historiques sur la même souche de rat, ou de rongeur, et dans le même labo, dans une historique assez récente, c'est-à-dire moins de 5 ans. Et si on voit qu'on reste dans la fourchette de la variabilité, bah, ça peut atténuer la signification du risque accru qui est montré par les statistiques. Or là, les références historiques ont été contestées, donc des expériences retenues par l'OMS ont été contestées par l'EFSA, mais dans une forme complètement absurde. Ils ont trouvé des références historiques qui les arrangeaient avec d'autres types de rats, ou des références historiques âgées de plus de 7 ans, ou parfois même des références historiques qui sont apparues après la réalisation de l'expérience incriminée, ce qui fait qu'on voit bien qu'ils ont été chercher les chiffres qui les arrangeaient pour décrédibiliser, déclasser les études qui fondaient le jugement de l'OMS, et c'est ça qui est attaqué par ce groupe de scientifiques qui a fait cette publication très très argumentée. Alors ça, bien sûr, c'est vraiment de leur compétence, et on s'appuie là-dessus, en démontant techniquement, scientifiquement, la dérive méthodologique de l'EFSA.
Mais alors, c'est presque dérisoire, ce bricolage de gamins polissons pris la main dans le sac. Mais du coup, ça renforce encore mon intérêt pour la question que je vous pose, François Vayrette. Qui sont ces experts qui siègent dans ces différentes agences publiques, nationales voire internationales, et qui décrètent ou s'amusent à bidouiller, comme ça, il n'y a pas d'autre terme, des données scientifiques?
Alors, effectivement, on peut se poser la question de leur motivation. Alors, on a des experts, on le sait par le passé, qui étaient avec un certain nombre de conflits d'intérêts. Ça a été prouvé par des travaux d'organisations comme Corporate Europe Observatory, les travaux de la journaliste Stéphane Aurel. Il y a eu beaucoup de travail vraiment très, très intéressant qui a été fait là-dessus par ces gens-là. On a aussi dans les comités qui va examiner justement les demandes d'autorisation, le comité permanent, pour employer son acronyme, le plus simple, des gens qui représentent les États et donc les intérêts des États. Et l'agence sanitaire allemande, le BfR, quelque part, elle est aussi soumise à l'autorité de l'État allemand, et l'Allemagne, c'est un secret pour personne, est un pays dans lequel la chimie, l'industrie de la chimie a un pouvoir important, un peu comme nous, si vous voulez, l'industrie nucléaire a un pouvoir important. Donc ça se traduit, pour nous c'est une des explications, par une attitude de ces personnes-là qui est a priori favorable à l'industrie qui est défendue, c'est-à-dire ici l'industrie des phytosanitaires. Et selon la commande qui n'est pas forcément écrite mais qui est un peu sous-entendue, on peut imaginer que ces gens-là abordent le dossier avec un angle qui est biaisé et avec une volonté de trouver tous les biais possibles, même si pour ça il faut trouver des méthodes qui sont un peu frauduleuses, n'ayons pas peur de le dire. D'ailleurs, on avait, nous, attaqué l'EFSA l'année dernière avec nos amis du réseau Pesticide Action Network Europe, en critiquant la façon dont ils acceptaient des dossiers incomplets pour la réhomologation des produits. On s'était intéressé à une nouvelle obligation dans la composition de ces dossiers, qui est l'obligation de fournir dans les dossiers de réhomologation l'ensemble des études publiées les 10 dernières années. Ça doit être dans chaque dossier. On avait choisi donc 7 produits qui passaient en réhomologation, dont le glyphosate, et on s'était aperçu qu'en fait, en moyenne, il manquait la moitié ou les deux tiers des études. C'est-à-dire que, après ça, les études sont de valeur inégale, c'est vrai, mais l'obligation légale, elle est claire. Toutes les études doivent être dans le rapport pour qu'après ça, on puisse piocher dans l'ensemble des informations en faisant le tri. Mais là, pour le glyphosate, il y avait en gros une grosse moitié des études publiées qui avaient été jointes dans le dossier, donc une petite moitié qui n'y figurait pas. Donc ce genre de manquement est épinglé régulièrement. D'ailleurs, moi j'en avais discuté à l'époque avec des représentants de l'EFSA qui avaient dit « Ah oui, mais bon, c'est une nouvelle obligation, ça, on n'est pas encore rodé, etc. » Bon, soit, bénéfice du doute, maladresse du débutant. Mais on a depuis pointé un autre dysfonctionnement, c'est l'acceptation de manque de données dans les dossiers de réhomologation. Et on a donc saisi le médiateur de l'Union européenne donc quelques temps sur cette question-là, parce que c'est une pratique aussi complètement aberrante. L'EFSA acceptait des données incomplètes dans les dossiers, et en fait, en gros, disait aux firmes, mais vous donnerez les données manquantes plus tard, c'est ce qu'on appelle les données de confirmation. Ça existe toujours, il y a des dossiers, des produits qui ont été réhomologués avec des manques très importants dans les données toxicologiques et écotoxicologiques. Et ça, c'est aussi quelque chose d'illégal, puisque les dossiers doivent être complets. Donc le médiateur de l'Union européenne l'a bien reprécisé en épinglant l'Union européenne et en les enjoignant de régulariser leur situation dans les 2 années qui viennent en faisant un rapport qui explique comment ils auront fait. Donc vous voyez, les libertés prises avec les obligations textuelles se multiplient du côté de l'EFSA quand même.
Et les actions engagées par des associations, dont la vôtre, Génération Future, François Vayrette, se multiplie également. Et là, on arrive à la deuxième partie du feuilleton, puisque vous venez de citer 2 actions que vous aviez menées, mais qui n'étaient pas exactement des actions en justice. C'était des réclamations auprès du médiateur, auprès des institutions européennes elles-mêmes, leur demandant de faire leur boulot, en quelque sorte. Là, vous passez un cran, alors vous allez nous dire si c'est la première fois, et surtout, quel intérêt vous y voyez par rapport à cette affaire d'autorisation pour un pesticide cancérigène probable pour les 15 ans à venir.
Alors, les moyens d'action juridique des associations au niveau européen peuvent être parfois limités. D'ailleurs, avec nos amis de Pan-Europe, on avait cru pouvoir faire avancer le droit parce qu'à un moment donné, on avait reconnu une action dans laquelle on attaquait une législation européenne qui a autorisé un certain nombre de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Mais finalement, on a perdu en tout dernier recours ce cas-là, ce qui fait qu'on n'a toujours pas le droit pour une association européenne d'attaquer une législation directement. Donc on est obligé de trouver d'autres angles pour attaquer. Donc ça peut être effectivement s'adresser aux médiateurs, faire des rapports pour dénoncer. Et cette fois-ci, sous l'impulsion de nos amis Global 2000, c'est-à-dire c'est les amis de la Terre Autriche, et accompagnés par d'autres associations allemandes, anglaises, etc., belges, européennes, et nous-mêmes, on a décidé de saisir un procureur à Vienne, donc le pays de l'association autrichienne des amis de la Terre, pour lui signaler ce qui nous semblait à nous être une fraude par rapport aux règles généralement admises et prescrites au niveau international sur l'interprétation des données scientifiques pour l'homologation des produits concernant le glyphosate. Et donc on a saisi ce procureur en Autriche conjointement à 6 associations, ce qui est une première action. Et aujourd'hui, avec François Laforgue, notre avocat, on est en train d'examiner une série d'actions juridiques qu'on pourrait nous aussi déployer en France. Alors, nos avocats autrichiens et français sont rapprochés pour essayer de se coordonner. Et le droit n'est pas exactement le même, les juridictions ne sont pas exactement les mêmes en France et en Autriche, mais pour voir comment on pourrait décliner ce type d'action en France et mener aussi éventuellement des actions juridiques spécifiques en France, par exemple en attaquant l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, si c'est possible, depuis la France. Donc, on essaie à la fois de se coordonner entre nous, ONG, et à la fois... Donc avec des actions communes et à la fois d'avoir des actions nationales séparées pour multiplier les chances d'ailleurs de trouver un procureur qui veut bien prendre notre plainte, qui la déclare recevable.
Si le procureur vous suit, quelles sont les étapes ?
Alors, si le procureur accepte dans un pays de l'Union de recevoir une telle plainte, après il y aura un juge d'instruction nommé et puis une enquête diligentée avec des experts effectivement qui viendront pour les différentes parties expliquer pourquoi on pense qu'il y a vraiment fraude. Et là on s'appuiera sur cet avis qui est publié dans la publication de novembre 2015, co-signé par 96 auteurs et qui dissèque vraiment par le détail l'ensemble des dérives par rapport aux normes en vigueur. Ce qu'on considère nous être des dérives par rapport aux usages en termes d'interprétation des études scientifiques dans le cadre de l'homologation. Et ça, c'est un débat d'experts, mais c'est surtout un débat qui concerne tous les citoyens, parce que c'est une question de démocratie. Si on a des règles, la science, elle produit de la connaissance, et après ça, il y a des règles pour l'utilisation de la science dans le cadre réglementaire. Si on ne respecte pas ces règles, dans le cadre réglementaire, ça pose vraiment un souci, parce que c'est pas le citoyen de base qui peut venir contrôler ça. Et heureusement qu'on a des scientifiques qui se sont engagés dans la question, qui nous ont finalement fourni un argumentaire extrêmement solide et solide y compris scientifiquement et publié, donc validé.
Mais qu'est-ce qu'un jugement d'un des pays de l'Europe peut obtenir ?
Il peut obtenir une condamnation des instances attaquées, c'est-à-dire que nous, on s'attaque au BFR, à l'agence allemande, à l'agence de sécurité sanitaire européenne, également au groupement d'entreprises qui ont fourni des études, et Glyphosate Task Force, hein. Et donc on peut imaginer qu'un jugement qui nous serait favorable condamne éventuellement ces parties, et qu'elle leur ordonne d'utiliser les normes internationales pour revoir leur copie, revoir leur évaluation. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est au-delà d'une condamnation, c'est surtout le respect des règles communément admises. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a urgence à un rappel à la loi dans cette question, parce que la guerre fait rage entre l'OMS et l'Agence sanitaire européenne. Et on voit bien que les experts de l'OMS sont ulcérés par la façon dont on les renvoie dans les cordes, comme s'ils avaient fait un travail, excusez-moi l'expression, de cochon, bâclé, sans aucune valeur scientifique. Je rappelle que c'est quand même 17 scientifiques de très haut niveau qui, pendant un an, ont évalué 1000 publications revues, publiées dans des revues et comités de lecture, et qui ont donné un avis tout à fait autorisé. C'est une émanation de l'OMS. Donc voilà, aujourd'hui, on arrive un peu au bout du système où, à force de tordre les faits, ça devient absolument plus acceptable, y compris pour une agence aussi respectable et reconnue scientifiquement que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une émanation de l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, il y a un débat qui n'est pas seulement scientifique. Pour nous, le débat scientifique, il est clos. Mais c'est un débat juridique, un débat sur le fonctionnement des agences, les conflits d'intérêts éventuels et sur le respect des normes en validation de la science. Et il ne faut pas confondre d'ailleurs la science et la science réglementaire dans plein de débats. J'ai à la rappelé à l'industrie de l'agrochimie qui dit non, mais ça c'est un avis scientifique. Non, non, c'est un avis, c'est de la science réglementaire, donc c'est de la science, mais c'est du réglementaire, donc on sait très bien que dedans il y a aussi du politique et donc de l'économique. Donc il faut ramener ça à la vraie valeur scientifique, et pour moi, je vois pas comment on peut nier complètement la valeur des travaux de l'OMS sur le glyphosate, c'est quand même ahurissant.
En quoi est-ce que ça consiste, le fauchage des OGM à destination des animaux, Didier Mullier ?
Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un débat dans l'espace public concernant les OGM, que ce soit des OGM qui poussent dans un champ ou des OGM qui poussent dans des champs au Brésil. Pour nous, c'est la même chose. Dans tous les cas, la population ne veut pas d'OGM et les filières agricole essaye de masquer un maximum cette importation. Donc en fait, quelque part, on a délocalisé le drame de l'OGM au Brésil, entre autres, et nous, on essaye de le faire réexister ici. Donc la technique qu'on a utilisée est propre au port de l'Orient. On va dans un silo en pleine nuit, on essaie de détruire un maximum de marchandises, et ensuite, on attend la police pour qu'ils constatent les faits, l'objectif étant pour nous d'avoir un procès et de pouvoir, durant le procès, faire exister un débat qui existe très rarement sans ces procès.
Et donc il y en a eu plusieurs des procès déjà ?
On n'arrive pas à avoir un procès. On se demandait pourquoi, on trouvait ça étrange qu'on puisse rentrer dans un entrepôt privé, casser des cadenas, détruire de la marchandise et n'avoir que des PV pour mauvais stationnement. Il se fait qu'après la dernière action, il y a maintenant près de 2 ans, nous avons été au conseil régional pour leur demander d'arrêter la filière et l'exploitation du soja ici en Bretagne. La réponse a été assez étrange. D'abord, on nous a revendiqué que la Bretagne était une zone sans OGM. On a trouvé ça rigolo, puisque les animaux en Bretagne mangent 80% de matière OGM. On ne voit pas en quoi c'est une agriculture sans OGM. Cet OGM, par définition, il est gavé de pesticides. Donc au minimum, le cochon breton est gavé de Roundup. Les conséquences du fait qu'il ait mangé des OGM sur sa santé, je pense qu'il faut aller voir des personnes comme le docteur Serralini pour pousser un peu plus loin. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà des études là-dessus.
Ensuite, il y a la santé des humains, puisque ces cochons, ils sont destinés à terminer en jambon beurre.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc ce cochon, il y a du pesticide et il a aussi mangé de l'OGM. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et d'autre part, le conseil régional, enfin son porte-parole, nous a dit explicitement qu'on n'aurait jamais de procès. Donc en fait, on peut continuer à rentrer dans leur silo, on peut continuer à casser de la marchandise, des portes. Ils veulent pas de procès.
Pas de publicité.
Ils veulent pas de publicité. Nous avons été, nous, de notre côté, voir des personnes qu'on connaissait au parquet de l'Orient. Et eux ont eu un discours similaire. Ils savent très bien qu'on veut utiliser le procès à des fins de communication. Et pour eux, tant que l'entreprise est remboursée par son assurance, au minimum, jamais ils nous attaqueront. Donc on essaye de se dépêtrer entre ça, mais on a encore plein de bonnes idées. Et voilà, il y a pas mal de projets qui sont en cours pour le moment au niveau des faucheurs en Bretagne.
Christophe Noisette, c'est une histoire un peu curieuse là, cette histoire des faucheurs d'OGM à l'Orient. Parce que dans ce cas-là, nous qui nous intéressons au recours en justice, ben c'est la justice qui finalement se désintéresse ou en tout cas a des attitudes un peu étranges par rapport à des actes considérés comme délictueux tout de même.
En effet, les faucheurs volontaires ont à plusieurs reprises, dès 2009, mené des actions coup de poing dans les ports bretons et principalement à l'Orient, un port qui appartient à la région en Bretagne, qui s'est déclaré sans OGM. Et jamais, ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller expliquer leurs méfaits au tribunal. Généralement, quand ils font un fauchage classique de maïs transgénique, il y a une plainte, ils déclarent leurs identités et il y a un procès qui leur permet d'expliquer des choses. Et là, jamais, jamais.
Pourtant, c'était chose... allé assez loin, puisqu'il y avait eu une occupation d'usine, il y avait une cargaison qui avait été retenue à bord, il y avait même eu une dénaturation d'un silo, si je me souviens bien.
Oui, il y a eu plusieurs silos qui ont été dénaturés avec des produits non toxiques, hein, bien entendu, mais qui rendaient le soja impropre à la commercialisation. Mais en fait, c'est que les importations de soja transgénique, personne ne veut avoir d'éclairage sur cette chose-là. Autant dans les champs, bon, il y avait une mobilisation qui était importante, il y avait la Confédération paysanne, il y avait Greenpeace, il y avait du monde qui avait déjà manifesté leur mécontentement. Sur les importations, toute la filière économique française ne veut pas en entendre parler puisque on n'a pas pris acte de cette chose-là et on ne veut pas en sortir de cette dépendance au soja outre-Atlantique. Et ce soja-là nourrit la filière française et européenne du bétail. Voilà.
Est-ce qu'elle est dans la légalité, cette filière, lorsqu'elle importe massivement des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes d'OGM tous les ans?
C'est 4 millions, à peu près 4 millions de soja. Oui, c'est légal. C'est légal parce qu'il y a une autorisation qui a été donnée par Bruxelles pour l'importation de soja transgénique, hein, génétiquement modifié par transgénèse. C'est légal.
Mais on ne s'en vante pas.
Contre, on ne s'en vante pas. Et pire que ça, on nous dit que nous avons un étiquetage des OGM dans l'Union européenne. Soit. Mais les OGM servent à nourrir le bétail. Or, les produits issus des animaux nourris au soja transgénique n'ont plus d'étiquetage. C'est-à-dire que le lait, les œufs, la viande issue de ces animaux-là ne sont pas considérés comme étant nourris aux OGM. Là-dessus, c'est légal aussi. C'est-à-dire qu'il y a une omerta sur cette question-là, une opacité totale sur cette question-là.
Donc en fait, moins on en parle, moins il y a le risque que les choses soient appelées à changer.
Tout à fait. Parce que c'est parce qu'il y a eu obligation de déclarer les essais en champ dans les mairies. Ça a été plus ou moins fait, bien fait, mais il y avait des obligations de transparence sur les essais en champ qui a permis aux faucheurs et à d'autres associations de manifester contre ces cultures-là. Ça aurait été dans le secret le plus total, il n'y aurait eu aucun moyen, à part de faire des tests ADN et des tests compliqués et coûteux, pour retrouver dans les millions de champs de maïs celui qui avait un transgène. C'était pas possible. Donc les actions des associations ne sont possibles que dans un cadre où il y a une forme de transparence des pouvoirs publics.
Mais alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a tout de même eu, récemment, au mois de février dernier, un procès qui a été lancé contre ces faucheurs d'OGM, mais alors pas du tout pour les faits que nous venons d'évoquer, Christophe Noisette.
Absolument. Il y a eu un début de procès, on ne sait
oui,
pas
un début de
ce,
procès,
que ça,
oui.
ce que ça va devenir, parce qu'il ouais. y a eu juste une convocation au tribunal pour quelques faucheurs qui avaient tagué sur les murs du port de Lorient que les OGM, ils n'en voulaient pas dans les assiettes, dans les ports, dans les champs, ils n'en voulaient nulle part. Voilà. Donc ils avaient manifesté par des mots leur opposition, et non plus par des actes comme ils avaient fait avant, et là... convocation au tribunal, et on leur propose de négocier une petite amende de 300 euros par personne, et après on leur fout la paix. Ils ont dit non, ils veulent pas. Les faucheurs veulent des procès.
Et
c'est les procès qui leur permettent d'avoir une audience, de déclarer leur action de désobéissance civile. Ce sont pas des gens qui viennent pour embêter, au sens négatif du terme, ils sont là pour éveiller les consciences.
Alors, cette affaire, qui est assez amusante, somme toute, à InfoGM, elle ne vous a pas étonné plus que ça. En fait, ces OGM destinés à nourrir les animaux existent depuis des années. C'est presque devenu une routine. Mais la question des importations, Christophe Noisette, reste une question quand même importante et qui ne concerne pas uniquement les aliments à destination des animaux.
Les importations d'OGM, il y en a aussi sur un autre biais, c'est le coton, le textile. Mais là, par contre, on a encore moins de transparence, puisque le coton transgénique en Inde arrive sous forme directement de pulls faits par des gens en Tunisie, au Maroc, en Bangladesh, etc. Donc là, on a encore moins d'informations, on ne sait même pas ce qu'on porte. Donc ce coton-là arrive dans les ports. Non, ce qui risque d'être plus vicieux, c'est si les nouvelles techniques de modification du vivant se mettent vraiment en place, si d'autres OGM arrivent sur le marché, et que les pouvoirs publics décident que ces OGM-là ne sont pas des OGM. Dans ce cas-là, il n'y aura plus aucune information, on ne saura plus du tout ce qui sera importé dans les ports. Ce sera absolument impossible de faire quoi que ce soit. Il n'y aura plus d'étiquetage, il n'y aura plus d'évaluation. Voilà, ça va passer comme une lettre à la poste.
Comment est-ce que les pouvoirs publics pourraient décider que ce ne sont pas des OGM ?
Mais en fait, comment dire, il faudrait reprendre un petit peu l'histoire. C'est-à-dire
oui.
que quand les OGM transgéniques sont arrivés dans les années 90... ils ne souhaitaient pas forcément d'éclairage sur cette modification génétique. Mais comme il y avait un apport de gènes extérieurs, qui avait franchissement des barrières génétiques, il y a eu une grosse mobilisation qui s'est faite en disant on veut pas de fraises dans nos poissons ou de poissons dans nos fraises, voilà. Donc ça parlait aux gens et on a dit voilà, ok, on est en train de faire quelque chose de complètement nouveau et donc on va mettre en place une réglementation adéquate. Voilà. Et donc c'est comme ça que les OGM transgéniques, du fait de cette introduction de séquences génétiques venant d'autres mondes, a pu arriver avec une réglementation particulière. Mais ça a eu des conséquences très dramatiques pour l'industrie biotechnologique en Europe. Parce que les gens, quand ils ont su qu'il y avait ça qui était en train d'arriver sur le marché, ils se sont dit, oh là là, on n'en veut pas. On n'en veut pas, et donc ils ont exigé l'étiquetage, ils ont exigé de plus en plus d'évaluations, ils ont demandé des suivis, ils ont demandé plein de choses, et finalement, sur le sol européen, très peu d'OGM ne poussent. Il y a un peu en Espagne, en France, il n'y en a plus depuis 2008, en Allemagne, il n'y en a plus, en Bulgarie, il n'y en a plus, des pays qui en cultivaient ont arrêté, en République tchèque, en Roumanie, ça devient anecdotique, voilà. Donc, il y a eu un échec de la culture OGM, du fait de cette réglementation-là. Sur les importations, je pense que ça a joué aussi. Pour l'étiquetage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lécithine de soja d'origine OGM dans les chocolats, très peu. Il y a très peu de produits dédiés à l'alimentation humaine qui sont estampillés OGM, parce que l'étiquetage permettait de le savoir. Donc dès qu'on le sait, en gros, les gens n'en veulent pas. Et donc ils disent, oh là là, on est en train de faire des plantes par modification génétique, mais qui sont sans apport de gènes étrangers forcément. C'est par d'autres techniques d'édition de gènes, avec des nucléotides, etc. Mais c'est en gros de la modification génétique. Et ils disent, si on rejoue la partition des années 90, on va se retrouver avec la même opposition. Si on remet le sigle OGM sur ces nouveaux produits-là, on va avoir exactement la même réaction des citoyens et des consommateurs. Et donc, ils essayent de forcer le gouvernement à ne pas étiqueter, à ne pas évaluer ces nouveaux OGM comme étant des OGM. Et donc, il y a tout un argumentaire scientifique et juridique qui se met en place pour trouver des solutions pour exclure ces OGM-là. Et la solution qui serait idéale pour eux, en quelque sorte, ce serait de renégocier la directive 2018. C'est celle qui réglemente au niveau européen les OGM transgéniques, parce que si on lit correctement cette directive-là, ces nouveaux produits-là rentrent dans la réglementation OGM.
Ces nouvelles techniques que vous évoquez, Christophe Noisette, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que vous pensez qu'elles provoqueraient la même répulsion dans le public?
A priori, oui, elles risquent de gêner autant. Les promesses des nouvelles techniques, c'est bien sûr, comme toujours, des choses formidables, des plantes qui vont pousser dans des lieux improbables et avec des goûts et des nutriments tout à fait incroyables. Bon, ça, c'est le discours. Concrètement, qu'est-ce qui nous prépare? On en a un petit exemple avec les quelques dossiers qui sont en train d'émerger aux États-Unis et au Canada, hein, qui sont un peu en avance, entre guillemets, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui nous prépare? Ce sont des variétés rendues tolérantes aux herbicides. L'intérêt pour le consommateur, immédiatement, est nul. C'est-à-dire qu'on va nous faire des lins qui tolèrent du glyphosate, par mutagénèse dirigée par méganucléotide, c'est une forme d'édition de gène. Ils vont nous préparer des colzas rendus tolérants aux herbicides, ils vont nous préparer des maïs qui produisent des insecticides, ils vont nous faire des vaches plus grosses avec plus de muscles pour faire plus de viande. On est dans la continuité paradigmatique de l'industrialisation de l'agriculture.
On est même dans une répétition accablante, Christophe.
Oui, on est dans une répétition plus qu'accablante, c'est que on nous fait croire que c'est différent alors que c'est exactement la même chose. Bien sûr, la modification en elle-même n'est pas exactement la même. On est peut-être un peu plus précis. Peut-être qu'il y aura moins d'effets hors cible, mais il y en aura. Et ça, on ne veut pas les évaluer.
Et surtout, ça signifie qu'on continuera à arroser abondamment les plantes avec des herbicides et qu'on continuera à faire pousser des plantes qui fabriquent, qui produisent leurs propres insecticides.
C'est ça. Exactement, on reste dans l'agriculture industrielle, dans l'agriculture chimique, sous couvert de modifications génétiques, on continue ce qu'on a fait depuis 50, 60 ans. Donc si l'éclairage se fait sur ces nouvelles techniques, c'est sûr que le rejet risque d'être assez fort et assez immédiat.
En tout cas, Christophe Noisette, on s'aperçoit que les mots ont effectivement un pouvoir tout à fait étonnant, puisque des tags peuvent vous entraîner devant un juge alors que des actions beaucoup plus musclées vous laissent tranquillement chez vous. Et là, c'est simplement une bataille de mots, c'est-à-dire qu'on ne dirait plus OGM et donc on aurait le droit d'importer ce qu'il est interdit d'importer depuis plus de 15 ans maintenant, enfin plus de 10 ans.
Oui, c'est ça, les mots sont plus forts, ils ont peur des mots, parce que, voilà, on est quand même une société qui publie, qui écrit, qui, on a encore un système d'information de qualité, hein, donc les gens, ils vont être au courant. Et écrire sur un mur que ce porc diffuse des millions de tonnes d'OGM enrichis en herbicides, ça frappe tous les gens qui passent devant. Alors que l'action, si on n'en parle pas, elle peut être dans un coin, hop, ils ont perdu 1000 tonnes, bon ok, très bien, hop, c'est dans l'assurance qui va payer.
Alors plus largement peut-être, Christophe Noisette, à InfoGM, dont vous êtes un des porte-parole, comment est-ce que vous envisagez la donne juridique d'une manière générale, puisque dans cette émission, on a pu voir que certains font maintenant des recours en justice, que d'autres évitent justement les recours en justice pour des questions de discrétion, mais InfoGM, est-ce que pour vous, ces armes juridiques sont pertinentes, intéressantes, nouvelles, utiles, simplement accessoires ?
Alors, InfoGM ne lance pas de procès en tant que tel, ne mène pas d'action judiciaire en tant que tel. Non, nous, ce que on.
Mais vous avez des juristes.
Voilà, ce que dit notre juriste, voilà, c'est que en fait, il faut rester sur les textes qu'on a. Ne pas vouloir remettre en cause, recommencer des discussions interminables. Non, on a la 2018, la directive 2018, elle a une définition très précise de ce que c'est OGM et pas OGM. OGM, c'est ce qui ne se fait pas naturellement. Voilà, donc on a une définition qui est assez large, qui est très intéressante, et nous on dit, non, bouge pas. Voilà, on a une définition qui a été dure à élaborer, il a fallu des années de négociations. La France a mis encore 7 ans avant de la transposer dans son droit national. Ne recommençons pas et ne jouons pas avec les mots. Toutes ces façons nouvelles de faire des plantes, ça sera une façon de faire des plantes en laboratoire, qui ne peut pas être faite par des agriculteurs, qui resteront brevetées. Et donc, en gros, on est encore dans le schéma top-down. On vous impose les semences, on vous dit ce qu'il faut faire. Et puis vous, petits paysans, vous êtes que des salariés, entre guillemets, hein, des grandes firmes, et vous n'avez plus le choix de semencer. Non, on a déjà discuté de ça. Il y a deux types de semences. Il y a des semences paysannes, reproductibles et non brevetées, et des semences industrielles, non reproductibles et brevetées. On ne va pas créer une troisième catégorie, puisqu'elles rentrent pile-poil dans cette catégorie-là. Donc c'est plutôt un maintien pour les textes de loi actuellement en vigueur que nous sommes...
Que vous préconisez.
Que l'on préconise, voilà. Ne pas changer tout l'arsenal juridique, ça ne servira à rien. Surtout que cet arsenal-là, après, il permet... Donc cette transparence, et donc elle permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, par exemple, si un paysan venait à être contaminé, il aurait une information sur la séquence génétique qui l'a contaminé. Il aura une information parce que ça sera déclaré. Il saura ce que son voisin a fait. Il pourra se retourner contre lui éventuellement. Il pourra demander de mettre en place une responsabilité, etc., etc. Si tout ça disparaît, que va faire cet agriculteur bio? Que va faire cet agriculteur qui fabrique de la semence paysanne face à des voisins qui voudraient faire des nouvelles biotechnologies?
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers les différentes associations que vous avez entendues et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Philippe Palares, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.